Radio Prague, les informations.
Réaction tchèque à la crise nucléaire au Japon. L'armée tchèque a envoyé deux avions spéciaux au Japon. Reporters sans frontières choqué par la descente musclée à la télévision tchèque. Selon le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Martin Kocourek, les informations sur la situation au Japon dont nous disposons n'indiquent pas que les centrales tchèques représentent un risque plus élevé que nous ne pensions. Cela veut dire, d'après le ministre, que la Tchéquie n'a pas le même problème que le Japon et que le problème de la sécurité des centrales nucléaires est résoluble. Par contre, Jan Beranek de l'organisation Greenpeace souligne que l'industrie nucléaire nous assure toujours que de telles situations ne peuvent pas se produire dans les réacteurs modernes. Et malgré tout, le Japon se retrouve dans une situation critique. L'armée tchèque a envoyé deux avions spéciaux au Japon pour rapatrier les membres de l'orchestre philharmonique tchèque et aussi un certain nombre d'autres ressortissants tchèques, une information du ministère de la Défense. 106 membres de la philharmonie tchèque ont quitté Tokyo ce mardi et se sont rendus dans la ville de Kanazawa au Japon de l'Ouest. L'organisation de défense des journalistes Reporters sans frontières fait part de sa consternation après le raid mené par la police militaire dans les locaux de la chaîne de télévision publique tchèque. Nous sommes profondément choqués par les méthodes aberrantes employées lors de cette perquisition, tout comme par son objet. Il est très inquiétant que dans un État membre de l'Union européenne, un principe aussi fondamental que la protection des sources journalistiques puisse être violé de la sorte. Ceci est suffisamment rare. Nous prenons acte de la rapide réponse politique du ministre de la Défense Alexandre Vondra qui a suspendu dès samedi le chef de la police militaire et deux de ses adjoints. Mais de nombreuses questions demeurent sans réponse, a déclaré l'organisation. Ce jeudi, le gouvernement tchèque nommera une commission pour la négociation entre l'État et les églises, une déclaration du ministre tchèque de la Culture Jiří Besser. L'objectif de la commission sera de trouver un consensus entre l'État et les églises sur le règlement relatif à l'expropriation et à la compensation des biens des églises. Parmi les membres de la commission, il y aura le ministre tchèque des Finances Miroslav Kalousek et la vice-présidente de la Chambre des députés Kateřina Klasnova. La plus grande société de loterie tchèque Sazka est en difficulté. Deux projets de procédure d'insolvabilité ont déjà été lancés contre cette société qui a demandé de suspendre les activités de loterie parce qu'elle risque de ne pas avoir suffisamment de moyens financiers pour payer les gagnants. Météo. C'était une météo encore très printanière qui a caractérisé la journée de ce mardi, jour de fête des Ida en République tchèque. Soleil et douceur ont été au rendez-vous avec des températures allant de 12 à 16 degrés pour les maximales. Mercredi, le ciel en Tchéquie sera nuageux avec quelques faibles pluies par endroits. Les températures se situeront entre 12 et 16 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter. Et nous cédons le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Václav Richter pour ce bulletin d'information. La Cour constitutionnelle a décidé d'annuler les mesures d'austérité décidées par le gouvernement, mais donne une seconde chance au cabinet de faire passer ces mesures conformément à la Constitution. Nous vous en dirons plus en début d'émission avant de passer à un sujet plus culturel. Jusqu'à jeudi se déroule le festival de films sur les droits de l'homme One World, ou Jeden svět en tchèque. Nous avons rencontré une des membres d'un jury. La rubrique du jour, ce sera Panorama. Bonne écoute à toutes et à tous. Je vous le disais en titre, la Cour constitutionnelle, saisie par l'opposition social-démocrate, a annulé ce lundi les mesures d'austérité du gouvernement. L'annulation des mesures ne sera toutefois effective qu'à la fin de cette année. De plus, la Cour a donné la possibilité au cabinet Nečas de faire passer les mesures d'austérité une nouvelle fois avec la condition de respecter la Constitution. Alimuddin Ousmani.
Le gouvernement tchèque avait pour objectif, avec ses mesures d'austérité, de réduire le déficit public. Parmi les nombreuses mesures d'austérité, on peut citer celles qui concernent l'assurance maladie. Le gouvernement s'est, en effet, doté d'une sorte de bouclier prestataire. Les assurés ne peuvent plus prétendre qu'à une compensation salariale en cas de maladie de 60% du montant de base journalier. Auparavant, les assurés voyaient leurs prestations augmenter à 66% si leur maladie excédait 30 jours, et à 72% si cette dernière dépassait 60 jours. Ce plafonnement était une des mesures vigoureusement combattues par le Parti social-démocrate tchèque qui avait saisi la Cour constitutionnelle. Le président du Parti social-démocrate tchèque, Bohuslav Sobotka, a immédiatement réagi à l'annonce du verdict qui a donné raison à son parti sur la forme.
Il faut tout d'abord constater que la Cour constitutionnelle a défendu de manière ardue le droit à une procédure législative légitime. Le jugement est important en ce qui concerne les droits de la minorité parlementaire, en l'occurrence l'opposition. Il faut aussi constater que le gouvernement de M. Nečas a abusé de manière considérable de la procédure législative d'urgence. Il devrait, selon moi, au nom du gouvernement, s'excuser auprès de l'opposition.
Le gouvernement, par l'intermédiaire du Premier ministre Petr Nečas, a réagi en critiquant ce verdict de la Cour constitutionnelle, mais en déclarant qu'il le respectait. Il estime pour sa part que la crise économique justifiait une procédure accélérée devant le Parlement. Il a également annoncé les mesures qui seront prises à la suite de ce verdict.
Le gouvernement, à la suite de l'analyse de la Cour, va prendre toutes les dispositions législatives possibles pour limiter la hausse du déficit des finances publiques. C'est précisément ce déficit qui a poussé le gouvernement à agir l'automne dernier.
Le gouvernement devrait probablement trouver une manière de faire passer les réformes, car la Cour constitutionnelle n'a pas contesté le fond des mesures. Les mesures ont été annulées pour une sorte de vice de procédure, mais elles ne sont nullement remises en cause. Ce verdict pourrait donc signifier une victoire à la Pyrrhus pour le Parti social-démocrate, car si le gouvernement parvient à faire passer ces mesures en fin de compte, le parti de gauche pourra alors passer pour un parti procédurier et sans efficacité réelle.
Vous le savez, le festival du film sur les droits de l'homme One World, Jeden Svět en tchèque, se déroule encore à Prague jusqu'à jeudi, avant de se déplacer en région. L'occasion de rencontrer Catherine Absalom, membre du jury Rudolf Verba, chargée de liaison à la Fédération internationale pour les droits de l'homme à Bruxelles. Chaque année, elle remet le prix FIDH dans le cadre d'un événement belge, le Festival des Libertés. Elle a également rappelé que le festival tchèque One World se déplace à Bruxelles en mai pour présenter une sélection de films.
One World, je pense qu'on est à sa 13e année ici, si je ne m'abuse, et à sa 5e année à Bruxelles. Donc ça fait la deuxième année que ce qu'on appelle le HRDN, c'est le Human Rights and Democracy Network, qui est un réseau d'ONG sur Bruxelles, coopère également et donne un prix HRDN cette fois-ci au sein du festival à Bruxelles. Mais il n'y a pas de coopération directe entre One World à Bruxelles ou à Prague et entre le Festival des Libertés qui est établi à Bruxelles depuis maintes années aussi. Les deux événements sont distincts et ne visent pas vraiment le même public et sont plutôt complémentaires qu'en confrontation.
Vous faites partie donc du jury Rudolf Verba. Évidemment, on ne peut pas dire pour l'instant rien du tout. Mais de manière générale, pour les films que vous avez vus, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, par exemple? Alors, je ne parle pas, je vous demande pas de me dire quel est le film que vous avez préféré, mais des sujets en particulier qui ont été traités, par exemple, qui ne l'étaient pas auparavant, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué?
C'est un peu difficile parce que dans ce cas-là, je ne peux pas dévoiler les films que nous avons sélectionnés, puisque nous étions 5 dans notre jury, et j'aimerais mentionner le fait que nous étions 5 dans la mesure où évidemment un de nos plus grands membres du jury est toujours en détention en Chine, donc Liu Xiaobo. Mais sinon, en effet, les 15 films qui nous ont été donnés de voir sont toujours d'une très grande qualité, et c'est terriblement difficile de devoir prioriser un sujet par rapport à un autre, parce que quelque part, évidemment, tous vous marquent à un certain niveau. Mais il est vrai que un ou deux ou trois en particulier, soit traitent d'un sujet qui nous était très peu connu à tous les membres du jury, ce qui était déjà assez exceptionnel en soi, et un autre, par exemple, était peut-être un sujet qui a été traité auparavant, mais qui l'a été de manière différente, qui ouvre les yeux de manière différente et qui donne un souffle nouveau un sujet tout aussi important. C'était facile pour nous, quelque part, on s'est rendu compte de mettre 3 ou 4 en exergue. Un peu plus difficile de dire le dernier choix tranché sur 1 ou 2. D'un autre côté, la raison, la justification de notre choix est autour du nom de notre jury, ou du moins du motif qui lui a été donné, c'est-à-dire « the right to know », le droit de savoir. Donc on a vraiment mis en avant quelque chose qui était moins connu, puisque c'était un peu le mandat qu'on nous avait donné.
Juste une dernière question, vous pensez justement que ce type de festival, justement sur les droits de l'homme, sert à faire bouger les choses, en tout cas auprès du public? Est-ce que ça suscite l'engagement?
C'est une question un peu compliquée, parce que je ne peux y répondre que de manière assez subjective, évidemment, n'ayant pas vraiment de statistiques ou de mesures là-dedans. Néanmoins, je pense que c'est très très important de montrer ceci. Je pense que One World fait un travail remarquable auprès des écoles, parce que c'est notre base finalement, et c'est un travail auprès des enfants qui a une importance énorme, presque toute son importance, quand ils sont mis face à face à des choses qui leur sont terriblement étranges, évidemment, et un monde à part, comparé peut-être à des professionnels qui voient ça d'une autre manière. Mais je pense que néanmoins, pour tous, c'est quelque chose de crucial, et j'espère que ça continuera longtemps. Et One World ici, à Prague, qui en est quand même... grandit, je me sens, et leur petite section à Bruxelles, et également le Festival des Libertés qui est bien implanté.
Voilà tout de suite la deuxième partie de cette émission, une émission qui se poursuit avec la rubrique du mardi, la rubrique Panorama, qui est proposée cette semaine par Alexis Rosenzweig.
Panorama.
Panorama.
Bonjour Claire Morello.
Bonjour.
Vous avez décidé de vous lancer dans une thèse qui porte sur la ville de Prague pendant la Première Guerre mondiale. Alors, première question basique, pourquoi avoir décidé de choisir ce thème?
J'ai choisi ce thème, en fait, c'est un peu un intérêt qui s'est un peu développé au cours des années, au départ pour la Tchéquie et l'histoire tchèque. J'ai fait des études d'histoire et je me suis vraiment passionnée pour la Première Guerre mondiale en tant que sujet, et j'ai réalisé que ça tombait bien, il n'y avait pas grand-chose sur la Première Guerre mondiale en général dans les pays d'Europe centrale et orientale, et plus précisément dans le cas tchèque, il n'y avait pas grand chose, donc je me suis intéressée à ça, et j'ai vu qu'il y a toute une nouvelle historiographie qui s'intéresse aux problématiques des villes en guerre, comment une ville réagit en temps de guerre, comment les habitants vivent la guerre, et donc ça m'intéressait beaucoup de voir, s'intéresser à cette expérience quotidienne avec l'exemple de Prague qui n'avait pas été fait.
Vous en êtes au tout début de cette thèse, mais votre master, donc quand vous étiez encore à Sciences Po, portait une nouvelle fois sur la Première Guerre mondiale et sur une ville pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est la deuxième ville tchèque, le chef-lieu de Moravie, Brno. Est-ce que on pourrait commencer peut-être par parler, même si Prague est au début de votre étude, sur les différences entre Brno, la Morave, et Prague, la bohémienne?
J'avais étudié Brno parce que je m'intéressais beaucoup aux problématiques des nationalités et des loyautés, et un peu la complexité de ces allégeances, en fait, parce que c'est une ville qui en 1910 a à peu près 60% d'Allemands, 40% de Tchèques, et qui en 1921 la ville est agrandie, et donc du coup on se retrouve avec à peu près le pourcentage inverse de Tchèques et d'Allemands. À Prague, il y a pas cette problématique-là, elle se retrouve pas tellement, parce que c'est une ville beaucoup plus clairement tchèque, c'est la capitale tchèque au début du XXe, déjà, clairement.
Et par rapport à ce recensement, je pense que c'est un recensement en 1910 dont vous parlez, la proportion des Allemands, même si on a cette image de Prague, ville cosmopolite, ou en tout cas vive, où les communautés sont mélangées, les proportions sont, en tout cas de la population allemande, sont inférieures.
Oui, ils sont bien inférieures, c'est-à-dire que faut bien préciser qu'on parle de personnes dont la langue d'usage est le tchèque ou l'allemand.
Ça, ce sont les termes du recensement de 1910.
Exactement, c'est les termes du recensement autrichien, et j'insiste parce que c'est important parce que c'est pas forcément un ressenti national très fort, c'est juste on vous demande quelle langue vous parlez tous les jours et vous répondez. Donc il y a énormément de bilinguisme et après il y a énormément de bilinguisme et donc c'est pas pris en compte par le recensement. Et dans le recensement, on met juste une case allemand ou tchèque, on n'a pas le choix de mettre allemand et tchèque ou donc c'est un peu compliqué, mais en termes de chiffres basiques, on a à peu près 7% d'allemands, enfin de gens qui parlent allemand. Donc en 1910 à Prague. Donc du coup, et c'est des populations qui sont vraiment centrées sur le centre, enfin qui sont beaucoup au centre-ville. Et évidemment, comme c'était une population très, enfin qui a donné des écrivains extraordinaires, c'est normal qu'on s'en souvienne et c'était une part importante de la ville culturelle pragoise de l'époque.
Et si vous parlez des écrivains, alors on pense d'abord à Kafka, mais c'est important aussi puisque dans ce recensement et dans ces chiffres, les Allemands. Si dans ces 7%, on ne sait pas vraiment ceux qui étaient vraiment allemands ou ceux qui parlaient allemand quotidiennement, ceux qui étaient bilingues, il y a aussi la communauté juive.
Oui, alors la communauté juive qui donc à Prague, et encore une fois, c'est pas la même chose à Brno, et donc à Prague, la communauté juive constitue une bonne partie de la minorité allemande, à peu près un peu plus de la moitié, je pense, enfin, d'après les chiffres que j'ai vus. Et c'est vraiment le nerf de cette communauté culturelle allemande.
Les Deutsche Kulturträger.
Voilà, un peu, exactement. Mais à Prague, il y a aussi une spécificité, c'est-à-dire que, en comparant encore avec Brno, où à Brno, la majorité des juifs se sentent allemands, enfin, ou parlent allemand, alors qu'il y a une communauté juive tchèque à Prague. Donc du coup, les chiffres de la communauté juive ne recoupent pas complètement les. Enfin bon, donc c'est tout ça est complexe.
C'est complexe et vous en êtes au début de vos travaux sur Prague, mais vous savez déjà sous quel angle. Alors vous parlez de la vie quotidienne, c'est ce qui vous intéresse en premier lieu. Comment ont vécu les gens pendant ces 4 ans du premier conflit mondial?
C'est cette idée-là qui m'intéresse, c'est-à-dire de voir comment on s'est mobilisé pour le conflit, puis contre. Le conflit, enfin contre la guerre, comment l'État autrichien a essayé de mobiliser la population de Prague pour l'effort de guerre, comment elle a échoué, comment il y a les activistes nationaux, c'est-à-dire les leaders nationaux tchèques, réussissent à dire que eux, ils vont apporter une solution à tous les problèmes, notamment les problèmes de vie quotidienne, parce qu'on à partir de 17-18, vraiment, on meurt de faim dans les rues de Prague.
Où sont les sources pour votre travail?
C'est donc les archives nationales à Prague, notamment les archives de la police, pour voir justement les manifestations, tout bêtement, pour voir justement sur ces questions de mobilisation, qui va dans la rue, pourquoi. À Vienne, je vais aller, je pense, voir les archives d'une guerre, le Kriegsarchiv. Et essayer de voir ce que les autorités militaires disent de la situation à Prague. Et ensuite, des fonds plus réduits pour essayer de voir des fonds d'associations ou des fonds de théâtre aux archives municipales de Prague. Mais ça, c'est un peu difficile d'accès. Je ne sais pas encore exactement comment ça va s'articuler. Et puis ben, la presse, même si c'était très censuré pendant la guerre, mais bon, c'est toujours une source. Et j'ai essayé de voir un peu les gens qui avaient laissé des mémoires sur la vie quotidienne à Prague pendant la guerre. Donc, voilà.
Et pour ces archives de guerre à Vienne, c'est pour vous l'occasion de trouver des documents sur le comportement, alors soit de la hiérarchie militaire, soit de l'État austro-hongrois, envers la population tchèque, envers les militaires tchèques qui sont de plus en plus mal vus au fur et à mesure que la guerre se poursuit.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi de voir la tension entre autorité civile et autorité militaire. Donc là, vraiment au niveau de l'Autriche-Hongrie, c'est-à-dire même au sein même de l'Empire austro-hongrois, entre des militaires qui sont très méfiant par rapport aux Tchèques de façon complètement générale, c'est-à-dire on considère que les Tchèques sont suspects a priori, et des autorités civiles qui sont beaucoup plus habituées, qui sont là depuis des années et qui disent, qui essayent de mitiger cette répression. Mais donc il y a une répression très forte qui s'installe et qui est plus ou moins le fait des préjugés des militaires. C'est-à-dire on arrête systématiquement tous les professeurs et enseignants, enfin et instituteurs tchèques. Et on les met en prison, enfin ce genre de...
Parce qu'ils enseignent l'histoire de la nation tchèque ou des choses comme ça ?
Voilà, mais alors c'est des gens qui ont enseigné l'histoire de la nation tchèque pendant 20 ans avant et ça n'a pas posé de problème, mais tout d'un coup en temps de guerre on considère que l'idée nationale tchèque n'est plus acceptable. Donc forcément ça va mettre... C'est un peu de la part de Vienne, je pense, une façon de se tirer une balle dans le pied, parce que forcément en lançant cette répression contre les Tchèques, ils rendent un peu impossible une loyauté à l'État austro-hongrois. Donc, c'est-à-dire que ce que j'aimerais montrer, je pense, c'est que cette aliénation par rapport à l'État autrichien, elle est autant le fait de l'État autrichien que des leaders nationaux, finalement.
En citant vos sources, vos futures sources, vous n'avez pas parlé du livre de référence auquel on peut penser en vous écoutant, qui sont les aventures du brave soldat Schweik.
C'est sûr que j'ai beaucoup aimé lire Schweik et ça reste, je pense, que ça reste très intéressant justement sur cette espèce de paranoïa des militaires tchèques. Et je pense que c'est vraiment ça que ça raconte. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis, c'est-à-dire que c'est vraiment une satire de ce commandement militaire borné et plein de préjugés par rapport aux Tchèques et qui sont une bande de simulateurs et qui et donc je pense que enfin ça retranscrit bien un peu le puis bon c'est cette façon un peu tchèque de prendre les choses avec de l'humour. Et si dans ma thèse j'arrive à voir ce que je pense que dans les cabarets il y avait toutes sortes de pièces qui se moquaient de l'état de guerre et de la répression des Tchèques par l'État autrichien. Si j'arrive à trouver des sources là-dessus, je peux pas dire si j'en trouverais, mais ça serait génial et ça serait bien drôle.
Ce sujet, c'est selon vous essentiel pour comprendre après les relations entre Tchèques et Allemands pendant le XXe siècle ou dans la première moitié du XXe siècle?
Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment la Première Guerre mondiale est vraiment, de manière générale, en Europe, la Première Guerre mondiale est un peu une matrice du XXe siècle. Et je pense que ça a peut-être pas été assez exploré de voir quelle matrice du XXe siècle elle a été pour ces pays d'Europe centrale et orientale. Et clairement, en fait, on avait un État qui était supranational avant 14, en fait. Puis pendant la guerre, donc comme je viens de le dire, les autorités autrichiennes se mettent à perdre un peu cette position supranationale et à, en persécutant les Tchèques, adopter une position, à quitter cette position supranationale. Puis on a un État national tchécoslovaque en 18, et donc du coup la possibilité de la cohabitation des nationalités, enfin la radicalisation de la nationalisation des deux communautés. Se fait, commence, je pense, vraiment, avec la Première Guerre mondiale, donc tout le reste qui suit, c'est-à-dire la montée des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, et puis l'expulsion des Allemands en 45, on peut trouver des racines dans ce qui s'est passé pendant le premier conflit.
C'était Claire Morellon, historienne française, qui prépare une thèse sur Prague pendant la Première Guerre mondiale au micro d'Alexis Rosenzweig. Voilà, c'est la fin du programme en français de Radio Prague. Toutes ces émissions, vous pouvez les retrouver en version texte sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, photos à l'appui. Merci de votre fidélité.